Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle céramique et podcast sur Radiola. Quel lien entre ces deux mondes, celui de la poterie donc, que l'on connaît évidemment bien à Dieulfi, et celui du podcast, ces séries audio à écouter où on veut et quand on veut, qui connaît un grand succès dans notre pays depuis une dizaine d'années. Eh bien, le meilleur de ces deux mondes s'appelle Pot Cassé, et c'est un podcast d'environ 30 minutes sur la vie des céramistes, qui est diffusé depuis le printemps 2022. Et nous avons le plaisir de recevoir dans le studio de Radiola la co-créatrice de cette série audio, Louise Goutteiro, qui est elle-même céramiste dans le département de la Loire. Bonjour Louise.
Bonjour.
Alors pour le moment, on peut écouter 5 épisodes de la série Pot Cassé, dont plusieurs consacrés à des potières dieulfitoises et dromoises, Chloé Peterman ou Sarah Clotuche notamment.
Tout à fait.
Vous êtes aussi allé à la rencontre d'autres céramistes sur le territoire français pour le moment. Ces épisodes d'une demi-heure laissent la parole à une ou un céramiste qui livre un récit intimiste sur son histoire et sa profession. Pourquoi avoir voulu donner la parole à celles et ceux qui pratiquent ce métier qui est aussi le vôtre ?
Eh ben, justement, c'est vraiment la quintessence de pourquoi on a créé Pot Cassé. C'est parce qu'on a beaucoup l'habitude de voir le projet, le travail des céramistes en images, via Instagram notamment. Tout est très très imagé, on a tout de suite les photos des pièces, etc. Et on s'est dit qu'il n'y avait, en tout cas à l'époque où on a eu l'idée, il n'y avait pas... d'approche sonore de la céramique, enfin des céramistes et de leur travail. Et en fait, la céramique, c'est aussi beaucoup de sons. Et on a rejoint ça aussi avec le fait que, avec Sarah Gatin, donc ma co-réalisatrice, on écoutait énormément de podcasts en cours ensemble, parce qu'on était en cours au CNIFOP ensemble. Et avec une oreillette chacune l'une l'autre. Et on s'est dit qu'on aimerait bien justement pouvoir écouter d'autres céramistes parler de leur métier, parce que ça reste un métier qui est très solitaire, où on est dans son atelier. Et le céramiste a quand même cet avantage extraordinaire et incroyable de pouvoir écouter des choses en travaillant. Et donc, si on pouvait créer quelque chose qui fait des liens entre les ateliers, des céramistes qui parlent de leur atelier, dans leur atelier, à d'autres céramistes qui sont dans leur atelier en train de travailler, et ben ça serait vraiment génial.
Une mise en abîme radio et céramique. C'est ce que dit Chloé Peterman dans le dernier épisode disponible pour le moment, l'épisode 5, sur ce... Bah voilà, c'est un métier où on peut écouter la radio en direct ou des podcasts qu'on a envie à pas mal de moments. Donc d'une certaine manière, la radio et la céramique sont déjà liées.
Exactement. Y a énormément de céramistes qui écoutent la radio. Enfin, la plupart écoutent. D'ailleurs, c'est une question que je pose dans le podcast. Il faut savoir s'ils sont plutôt podcast ou radio. Et il y en a beaucoup qui parlent de France Culture, de France Inter, d'Arte Podcast. Bref, de tous les ressources sonores en fait qui peuvent les aider. Mais même moi, dans ma pratique personnelle, moi, ça fait très longtemps que j'écoute des choses en travaillant, même avant que je devienne céramiste. Donc c'est toujours quelque chose qui m'a énormément parlé et dont j'ai presque besoin pour carburer, quoi. Enfin, comme un support, quelqu'un qui est toujours là et qui nous aide. Et donc le son, je trouve ça super important. Je fais de la musique, c'est pas non plus pour rien aussi. Et voilà, le son, je trouvais que c'était une belle manière de rendre hommage à ce métier.
Ces podcasts, ils se caractérisent par un montage... assez minimal, enfin avec une grande place laissée au témoignage, à la parole de la potière ou du potier qui est interrogé. Ce qui est dit n'est d'ailleurs pas forcément très, très technique sur la poterie, mais c'est plutôt un parcours qui est raconté avec des rencontres, des anecdotes. Est-ce que cette accessibilité, cette vulgarisation du monde de la céramique, c'est quelque chose que vous avez souhaité faire dès le début avec cette série audio ?
Oui, complètement. Enfin, je suis quelqu'un d'assez pragmatique, donc on a mis sur table ce qu'on voulait exactement pour la série. Comment est-ce qu'on voulait mener les entretiens et pour qui on voulait s'adresser. Donc on voulait que ça parle aux céramistes dans le sens où on ne va pas s'interdire de parler de choses particulières, de choses propres à la céramique. On ne va pas s'interdire de dire des mots techniques, mais par contre, ce n'est pas du tout censé être important pour comprendre l'émotion, ressentir le travail de la personne, comment est-ce qu'elle réfléchit, etc. Donc comme notre podcast, il est vraiment basé sur le parcours de la personne et pourquoi elle aime faire ça, finalement, quand elle utilise des mots qu'on ne comprend pas, c'est pas le plus important. Mais ça parle donc autant aux céramistes qu'à des gens qui n'ont jamais fait de céramique. D'ailleurs, je l'ai bien testé avec mes amis pour savoir si c'était bon, si ça leur parlait quand même. Et ouais, bien sûr, ça,
je confirme.
Ça transcende. Et en fait, c'est ça qui est trop bien, c'est que moi, je voulais capter la passion, le pourquoi on fait ça. Et en fait, c'est vraiment en entendant des gens qui parlaient de leur passion que moi, j'ai décidé d'aller dans la céramique. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment lié.
Ouais, ça s'entend beaucoup, cette passion, à l'écoute de votre série audio, Pocassé, en tout cas. Ces céramistes passionnés, ils vivent dans des régions françaises différentes, on l'a dit, et ils travaillent selon différentes traditions. Est-ce que vous avez souhaité montrer cette diversité de parcours et de réalité dans le métier de céramiste dans notre pays?
C'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir quand même un panel assez différent. C'était pas quelque chose d'absolument voulu, dans le sens où on est quand même principalement déjà allé vers des gens dont on avait entendu parler, qu'on connaissait peut-être un petit peu, et dont surtout, le plus important, on savait qu'ils aimaient parler de leur travail. Et ça, et en fait, avoir cette flamme dans la parole, ça, c'était le critère numéro un, quoi. Et il y a des choses comme ça où, quand je rencontre des céramistes, et que je les écoute parler de tout ce qu'ils ont vécu, etc., je sais en 10 minutes si le podcast est faisable ou pas. Après, c'est pas que la personne a vécu des choses plus ou moins bien, c'est juste la façon dont elle parle. Il y a des gens qui sont moins à l'aise à l'oral, et c'est normal. Mais en fait, ça s'est plus fait comme ça.
Est-ce que passer par Dulphy pour interroger des céramistes, c'était un passage un petit peu obligatoire?
Pour le coup, c'est tellement important et central dans le dynamisme, et puis le fait qu'il y ait l'école aussi. Et du coup, Sarah qui a fait la formation de Dulphy au moins 7 ans en arrière, je ne sais plus, elle connaissait vraiment du coup beaucoup de monde dans cette ville. Et du coup, elle a tout de suite eu les idées de « Ah, cette personne pourra nous parler de telle chose, etc. » Et en fait, effectivement, la connaissance de Sarah en matière de personnes, de personnages dans le monde de la céramique, c'était super, super important, quoi.
Vous avez choisi des céramistes qui ont une expérience assez, assez importante dans ce métier, enfin, en tout cas un parcours à raconter pendant une demi-heure. Vous les questionnez sur leur premier rapport à la terre ou sur parler d'une pièce en terre en particulier ou parler de leur atelier, qu'il soit collectif ou individuel. L'idée c'était de raconter une variété de parcours et de pratiques.
Oui, complètement. Alors il y a aussi certains céramistes qui n'ont pas tant d'années derrière eux, c'est-à-dire ils sont pas obligés d'avoir 30 ans d'entretien. Mais effectivement, moi, ça me semblait déjà important d'avoir une certaine parité, aussi une parité dans l'âge, enfin, je sais pas, une diversité, pardon, dans l'âge, et une diversité de pratiques, donc autant des fours électriques, des fours à gaz, des fours à bois, des potiers plutôt, enfin, je dirais urbains, comme c'est, on va dire, à Dulphy, on est déjà plus urbain que dans le fin fond de la campagne rouennaise ou à Saint-Amand. En tout cas, ouais, comme le but, c'était quand même de faire des liens entre des gens qui ne se voyaient pas forcément de par le fait qu'on a un travail solitaire, c'était aussi cool de pouvoir un peu s'expatrier de Dulphy aussi. Voilà. Donc, j'ai essayé d'avoir en tout cas un panel le plus intéressant possible qui puisse apporter des nouvelles choses.
À l'écoute de votre série audio, Pocassé, il apparaît que le métier de céramiste demande beaucoup d'investissement personnel, mais les témoignages qui sont livrés parlent aussi de rencontres, beaucoup de collectifs, parfois d'entraide entre professionnels. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement, dont témoignaient naturellement les céramistes, ou c'est quelque chose que vous vouliez faire ressortir par rapport à cette profession?
Complètement. Alors dans les questions, on n'en parlait pas, mais c'est eux qui venaient naturellement à ce sujet-là, savoir s'ils avaient justement du coup eu des mentors, par exemple. Ça, c'est vrai que ça, c'est une question que je vous demande. Est-ce que vous avez eu des personnes qui vous ont tiré vers ce métier, qui vous ont marqué, des rencontres en fait? Et c'est pas forcément des céramistes d'ailleurs. C'est ça qui est beau, qu'on découvre aussi dans le podcast, c'est qu'il y a des céramistes, tous les gens qui m'ont donné, c'est absolument pas des céramistes, c'est d'autres artistes, des musiciens, des architectes, enfin voilà. Et du coup, effectivement, c'est du travail, la céramique, du travail solitaire, mais créer des liens, ça peut toujours aider à avancer mieux.
Vous n'éludez pas dans cette série les difficultés liées à cette profession, la précarité financière notamment, avec des revenus aléatoires, ou le paradoxe de vendre des objets parfois assez chers à un public parfois aisé. C'était important de demander à ces céramistes de parler de ces questions-là aussi.
Ouais, c'était super important, parce qu'en fait, je me suis aussi dit, ok, en tant que céramiste, quand on fait des marchés, quand on fait des événements, ou même quand on présente son métier aux autres, il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. Et une question super importante qui nous embête aussi, hein, c'est c'est ton hobby, c'est quoi ton vrai métier, est-ce que t'en vis, enfin voilà. Donc évidemment que c'était important que je pose la question aux gens que j'interview, parce que eux ils sont céramistes depuis très longtemps, et pour montrer que oui, bien sûr, évidemment ce n'est pas des gens extrêmement riches, extrêmement aisés, mais comme plein d'autres métiers, en fait, et c'est plus aléatoire, certes, mais la passion prend tellement le dessus que en fait, ça vaut le coup, voilà. Et donc, évidemment, c'était super important que je pose la question, même si poser la question à un céramiste que je connaissais pas du tout, c'est quand même un peu difficile, et il y a eu plusieurs fois où je me suis dit, non, je vais pas poser la question, c'est très intrusif, mais en fait, c'est super important, c'est super important, je trouve.
Est-ce que personnellement, vous déplacez à la rencontre de ces céramistes, les écouter, les faire écouter aux autres à travers cette série, ça nourrit votre propre pratique de la céramique ?
Oui, complètement. Alors au début, comme en plus, quand j'ai commencé les podcasts, j'étais vraiment toute jeune dans la céramique, on a un peu ce truc de dire, oh là là, ils sont trop forts, ça fait des années qu'ils font ça, c'est intouchable. Mais en fait, finalement, leur parcours et leur parole... moi ça m'a beaucoup résonné dans la tête, ce truc de rien lâcher, et puis il y a certains, en tout cas par exemple Grégoire Scalabre, moi je l'avais rencontré aussi avant, il avait eu ce discours tout de suite de dire mais la céramique ça le vend en poupe, c'est vraiment un métier pas si compliqué en ce moment, s'il y a bien un moment où se lancer dans la céramique c'est maintenant, vous aurez toujours de quoi donner des cours, vous allez y arriver. Donc, en fait, ça m'a énormément poussé, évidemment, de se rendre compte que c'est pas si... Enfin, ça peut être difficile, mais c'est pas insurmontable, loin de là. Et puis, voilà, il y a eu vraiment des échanges, moi, qui m'ont complètement transcendé. Enfin, celui, notamment, d'Hélène Latometti, donc le premier épisode. C'est aussi pour ça que je l'ai mis en premier, parce que c'était un entretien extrêmement chargé en émotions. C'est comme si elle nous a déposé un paquet et que, surtout elle nous a dit faites votre vie aussi belle que possible, quoi. Enfin, c'était vraiment très très beau, quoi. Donc évidemment que ça m'a aidé.
On peut parler un petit peu des coulisses de la création de cette série audio Pocassé. Comment est-ce que vous vous êtes formé sur la réalisation de ce podcast, si vous vous êtes formé, et voilà, est-ce que avec qui travaillez-vous sur ce projet, notamment par rapport à la musique ou au logo?
Alors effectivement, je suis entourée de pas mal de personnes. Dans le concret, j'ai appris toute seule à utiliser le logiciel. J'ai fait deux petites formations en fait, mais plus tard, après, presque au moment où j'avais fini le premier épisode, donc disons que c'était plus pour confirmer ce que j'avais déjà appris ou valider des choses, peut-être des mauvais trucs que j'avais, des mauvaises habitudes. Mais le plus important et le plus cher pour moi, c'est vraiment le regard des gens qui écoutent mes podcasts juste avant qu'ils sortent. Elsa Piquet et Bruno Roncière, voilà, de Radio France, tous les deux, et qui sont absolument adorables et qui me renvoient le corriger même pas deux jours plus tard. Enfin, ils sont vraiment topissimes. Ils ont vraiment une bonne écoute, et comme ils ont tous les deux des enceintes différentes aussi, ça me permet d'avoir des retours avec des sons précis. Donc voilà, moi je suis surtout entourée de personnes comme ça. Et aussi, donc pour le logo, c'est Yena Zador, c'est aussi une céramiste de Saint-Amand-Puisé qui a fait ce logo. Et pour les musiques, c'est des amis à Sarah Gatin. Donc eux, je les connaissais moins, mais ils étaient super motivés pour nous prêter leur musique. Donc j'ai pris choix une minute. Ah non, pardon, il y a aussi un autre artiste. Pardon, j'ai failli l'oublier, très important. Illy Mandara, je crois que c'est ça. Lui, il est musicien et il a cette particularité d'avoir fait des musiques en percussion sur des céramiques d'artistes. Par exemple, la musique que j'utilise dans le podcast, je crois bien que c'est des céramiques de Sarah Clotuche, justement, qui sont mises en son, mises en percussion par ces musiciens. Donc finalement, en fait, ça reste très très autour de la céramique, tout ça.
Ouais, on revient sur la mise en abîme céramique. Est-ce qu'il y a entre la fabrication artisanale d'un pot en terre et la fabrication artisanale également d'un podcast, vous trouvez des liens? Tout le monde peut y arriver avec... à force de travail.
La clé c'est le temps, le temps, la prise de recul aussi, je dirais, avoir l'immense privilège d'avoir le temps, de se dire je ne peux ne pas y toucher pendant 2 semaines, revenir dessus. Et c'est vrai que la céramique, c'est Grégoire Scalab, je crois qu'il le dit, le temps. La céramique a son propre tempo, et si on n'a pas conscience de ça, si on veut aller plus vite qu'elle, eh ben ça marche pas. Voilà. Eh ben, le podcast, en tout cas pour ma propre expérience, c'était un peu ça.
Alors ces podcasts, à ce stade, les auditeurs et les auditrices doivent se demander comment est-ce qu'on peut les écouter. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quelle plateforme ou de quelle manière on peut les entendre? J'en profite juste pour préciser que ces 5 épisodes et les suivants, on l'espère, seront diffusés sur Radiola pendant plusieurs mois, et notamment dans le cadre de notre fréquence FM sur le 106.6. Comment est-ce qu'on peut écouter la série Pocassé, Louise?
Eh bien, partout, c'est ça qui est beau, sur Deezer, sur Spotify, sur YouTube, sur Apple Podcast, sur SoundCloud. Ça fait déjà pas mal, mais il y a aussi d'autres sites de podcast. En tout cas, vous tapez Pocassé, j'imagine, podcast Pocassé. Pocassé, donc c'est tout attaché au singulier avec un « et » à la fin. vous trouverez donc tous les épisodes, ils sont assez faciles à trouver. Et donc j'ai vraiment essayé de diffuser le plus largement possible.
Peut-être un mot sur le ou les prochains épisodes. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà dire chez qui et où ces épisodes ont été enregistrés?
Bien sûr. Alors donc j'ai le prochain épisode, donc c'est Sophie Bruniz qui est adorable de patience parce que je l'ai enregistrée en même temps que les autres. Donc c'était il y a presque... beaucoup trop de temps, bientôt presque 2 ans en fait. Mais son épisode, je sais qu'il est plein de ressources, c'est vraiment très beau. Et puis ensuite, j'ai hâte donc de vous partager l'épisode de Pascal Vercher, donc qui est un céramiste ermite dans le fin fond du Rouennais, qui a un four à Nagama absolument gigantesque, et qui m'a parlé donc de toute sa vie de céramiste très très fournie. Ouais, c'est sa maison atelier, c'est assez dingue.
On a hâte d'entendre ça. Peut-être pour terminer, je me posais la question du nom de ce podcast, Pocassé. Pourquoi l'avoir appelé ainsi? Est-ce qu'il faut casser des pots pour devenir céramiste comme pour réaliser des podcasts?
Oui, peut-être. Il faut réessayer en tout cas. Il faut se tromper et réessayer. Oui, Pocassé, ça a été l'objet de nombreux débats pour choisir le nom. C'est parce qu'on aime beaucoup le fait qu'il soit très proche du mot podcast. Peut-être qu'un jour je diffuserai l'enregistrement du choix, parce qu'on a tout enregistré à ce moment-là.
Mais merci beaucoup, Louise Gouttero.
Merci à vous.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
radiola.media.